de Dieu. Prions le Seigneur. Éternel notre Dieu, merci parce que tu es un Dieu parfait, un Dieu qui nous aime, un Dieu qui ne veut que notre bonheur, un Dieu qui veut que ses enfants puissent aller de l'avant, Seigneur. Mais cela se fait non pas selon notre volonté, mais selon ta volonté. Tu nous fortifies, tu nous donnes toutes choses, Seigneur, des choses que nous ne méritons pas, mais que toi, tu nous donnes par ta grâce, afin que nous puissions être reconnaissants envers toi et afin que nous puissions aussi accepter toutes choses, Seigneur, que tu fais dans nos vies selon ton timing, Seigneur. Que nous puissions apprendre, Seigneur, à vivre non pas selon notre timing, mais selon ton timing. Parce que tout ce que toi, tu fais pour nous et tout ce que toi, tu veux pour nous, Seigneur, est toujours bon, Seigneur. Glorifie ton nom en ce moment que nous voulons, Seigneur, partager ta parole et nous réunir autour de toi, Seigneur, pendant ce temps de la méditation, cette courte méditation de ta parole de Dieu, de ta parole, Seigneur, et le temps de prière que nous allons prendre, Seigneur, pour pouvoir parler avec toi, communiquer avec toi, Seigneur. Que ton nom soit loué et soit béni. Au nom de Jésus. Amen. Oui, frères et sœurs, nous allons méditer un peu courtement la parole de Dieu dans le livre de. Dans la première épître de Paul à Timothée, au chapitre 1. Première épître de Paul à Timothée, chapitre 2, s'il vous plaît. Chapitre 2, le verset 1 à 4. 1 Timothée 2, 1 à 4. Épître de Paul à Timothée, première épître, chapitre 2 et le verset 1 à 4. Nous lisons la parole de Dieu pour sa seule et unique gloire. Le verset 1. J'exhorte donc avant toute chose à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille en toute piété et honnêteté. Cela est bon et agréable devant Dieu, notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. C'est la parole du Seigneur. Mais avant toute chose, donc, frères et sœurs, je voudrais un peu lire dans Ésaïe chapitre 56, le verset 7b, la deuxième partie du verset 7 de Ésaïe 56 qui dit ceci, « Car ma maison sera appelée maison de prière. » Et ça, c'est l'Éternel qui dit que ma maison sera appelée maison de prière. L'Église du Seigneur doit être une maison du Seigneur. Là où les enfants de Dieu se rassemblent, se retrouvent, ils doivent être plongés dans la prière parce que la maison de Dieu est une maison de prière. Et la prière est très importante, non seulement pour nous, mais pour Dieu aussi, parce qu'il veut aussi que nous lui parlons, que nous puissions parler à notre Père, notre Dieu. La petite méditation, je l'ai intitulée « Prier pour tous les hommes ». Prier pour tous les hommes. Oui, nous devons prier pour tous les hommes. La parole de Dieu exhorte les enfants de Dieu, les croyants, à prier pour tous les hommes, car c'est la volonté de Dieu que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. La prière ne devrait pas être réservé uniquement à des occasions un peu spéciales ou spécifiques. Non, la prière devrait être faite à tout moment. À tout moment. En communauté, individuellement, mais à tout moment. À tout moment. C'est pour cela que 1 Thessaloniciens 5, 17 dit « Priez sans cesse ». Parce que la prière doit être faite à tout moment. Mais prier sans cesse ne veut pas dire que l'Église ne doit rien faire d'autre que prier. Non, ce n'est pas ça. Cela signifie que l'Église ne devrait rien faire sans la prière. C'est ça que ça signifie. Ça ne signifie pas que du matin jusqu'au soir, l'Église doit prier, 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 prier. Oui, nous devons prier sans cesse à tout moment, mais cela signifie plus que l'Église ne doit rien faire sans la prière. Et individuellement aussi, personnellement aussi, dans notre vie chrétienne, nous ne pouvons rien faire sans la prière. Avant de faire quoi que ce soit, nous devons d'abord prier, chercher la volonté de Dieu, nous adresser à notre Père qui est notre Dieu. Et selon le texte que nous venons de lire, premièrement, nous pouvons dire ceci, nous pouvons nous poser cette question, de quelle manière nous devons prier, d'après ce passage que nous venons de lire, de quelle manière nous devons prier. Au lieu de dire simplement que nous devons prier, l'apôtre Paul recommande à ce que toutes les formes de prière soient faites. Toutes les formes de prière soient faites. C'est ce que l'apôtre Paul dit dans ce passage. Il dit, avant toute chose, à faire des supplications, des prières, des intercessions et des actions de grâce. Quatre choses, quatre mots, quatre termes qu'il utilise ici. Il dit des supplications, des prières tout simplement, des intercessions et des actions de grâce. Ces quatre mots, ces quatre termes indiquent les différentes façons, les différentes manières que nous pouvons communiquer avec Dieu. Nous pouvons communiquer avec Dieu par des supplications, par des actions de grâce, par des intercessions, et tout cela, nous sommes en contact, en communion avec notre Seigneur. Et c'est le type de prière qu'il faut faire quand le peuple de Dieu est rassemblé, comme ce soir nous sommes rassemblés. Ce sont ces types de prières que nous pouvons faire ensemble. Bien sûr, il n'y a pas que ça, les quatre formes qu'on cite ici, mais on se limite à notre texte de ce soir. Nous savons qu'il y a aussi d'autres formes de prières, des prières d'adoration, des prières de louange, etc., etc. Mais ici, dans 1 Timothée, l'apôtre Paul énumère que quatre formes de prières. Les supplications, ce sont des prières faites avec instance et soumission. C'est prier avec beaucoup d'humilité en suppliant le Seigneur. En suppliant le Seigneur. Comme un subalterne s'adresse à son supérieur, mais avec humilité et tout en le suppliant. Et tout en le suppliant. Oui, c'est ce que le Seigneur veut que nous puissions faire quand nous faisons des prières de supplication. Ensuite, il dit les prières d'intercession. Les prières d'intercession font référence aux demandes que nous faisons au nom des autres. Quand nous prions pour les autres, pendant que nous prions, frères et sœurs, il y a des moments où il y a les besoins des autres personnes qui doivent prendre place dans nos prières. C'est ça qu'on appelle intercession. Il devait y avoir un moment où les besoins des autres trouvent une place dans nos prières devant le trône de Dieu. Nous nous avançons devant le trône de Dieu, non pas pour nos propres besoins, non pas pour nos propres préoccupations, mais pour les besoins des autres. C'est ça qu'on appelle intercession. Nous prions pour les besoins des autres. Et l'intercession devait être comme conduire quelqu'un que nous aimons bien, nous le conduisons aux urgences. Pourquoi? Nous savons son besoin, nous savons qu'il y a un ça va pas, et qu'est-ce qu'on doit faire? On l'amène auprès du Seigneur. Textuellement, comme nous faisons à la maison, un enfant que vous voyez qui ne se sent pas bien, ou bien ton mari, ou bien ton frère, ou bien ton épouse, ou ton voisin, tu sens que non, ça ne va pas bien. Il ne va pas bien, qu'est-ce qu'on fait? On ne le laisse pas mourir comme ça. Qu'est-ce qu'on fait? On l'amène aux urgences. On l'amène aux urgences. C'est ça aussi, à peu près. Pas à peu près, c'est ça l'intercession. Comprendre les besoins de quelqu'un, et tu réalises qu'il se trouve dans un état où il y a un ça va pas, il peut être un ça va pas spirituel, il peut être un ça va pas humain aussi. Alors, on l'amène auprès de notre Seigneur dans la prière. C'est ça. Donc, c'est comme conduire quelqu'un aux urgences. Et quand on conduit quelqu'un aux urgences, on est sûr et certain qu'aux urgences, on va les soigner, il trouvera la solution, il sera guéri. C'est pareil aussi avec nous. Quand nous prions pour les autres, nous sommes convaincus que le Seigneur agira selon sa volonté. Jésus-Christ, notre Sauveur, lui-même, il est notre intercesseur. La Bible dit qu'il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Nous devons, frères et sœurs, exercer le même ministère pour les autres, au nom des autres. Nous devons nous tenir, frères et sœurs, à leur place, en priant pour que Dieu puisse toucher leur cœur. Et s'ils n'ont pas encore reçu le Seigneur Jésus-Christ comme étant leur Seigneur et Sauveur, que Dieu puisse, le Saint-Esprit puisse les convaincre et les sauve, puisse les sauver par sa grâce. C'est ça. Intercéder pour quelqu'un. Intercéder pour quelqu'un que vous connaissez. Même si des gens que nous ne connaissons pas, mais que nous avons entendu parler à cause de l'amour que nous avons envers eux, nous pouvons les conduire aux urgences auprès de notre Seigneur Jésus-Christ. Il y a aussi des prières des actions de grâce qui signifient que nos prières ne doivent pas simplement consister en supplication et intercession, mais rendre grâce à Dieu, dire merci. Rendre grâce est une partie essentielle de notre marche avec le Seigneur. À chaque instant, à tout moment, nous devons rendre grâce à notre Dieu. Vous savez, frères et sœurs, nous ne méritons rien du tout, hein? Mais réfléchissons tout ce que le Seigneur fait pour nous, fait dans nos vies. Est-ce que nous méritons vraiment cela? Est-ce que c'est par notre propre force que nous méritons cela? Mais Dieu nous donne tout cela par grâce. Et en retour, nous devons dire merci. Merci à Dieu pour toutes choses, spirituellement et humainement. Dire merci à notre Dieu. Oui, nos prières devaient être marquées par des mots de remerciement. Nous devons remercier le Seigneur aussi, parce que quand nous prions, nous sommes convaincus qu'il entend nos prières. Alors nous devons le remercier dans nos prières. Seigneur, je te remercie parce que tu entends nos prières. La Bible dit que Il entend les prières de ses enfants. Il entend les prières de ses enfants. Dire merci à Dieu pour tout ce qu'il a déjà fait et tout ce qu'il fera dans nos vies selon sa volonté. Même des choses qu'on n'a pas encore vues, mais par la foi, nous savons que cela se réalisera. Et nous disons merci à notre Dieu. C'est ça, les prières d'action de grâce. 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 18, dit ceci. Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Rendez grâce en toutes choses, même dans des petites choses. Même dans des petites choses. J'aime bien cette image-là quand je vois nos enfants, tout justement les petits, quand ils viennent à la maison, même ici à l'église, tu lui donnes un petit quelque chose, un biscuit, un bonbon, il prend et la maman surveille. S'il ne dit pas merci, tout de suite, on dit quoi? On dit merci. Ah, voilà, c'est cette image-là que nous devons avoir vis-à-vis de notre Dieu. Dire merci, même pour des petites choses. Un biscuit pour un enfant, c'est quoi? C'est rien. C'est même pas un euro. C'est rien. Mais la maman insiste à l'enfant de dire merci. Et à notre Dieu, comment nous agissons, nous réagissons, comment devant notre Dieu. Même le souffle de vie qu'on a là, on ne le mérite pas. Hein? On ne le mérite pas. Mais il nous le renouvelle jour après jour. Ne fût-ce que ça, on peut lui dire merci. La vie éternelle qu'il nous a donnée, on peut lui dire merci. L'amour qu'il nous a démontré, nous pouvons lui dire merci. Nos péchés pardonnés, nous pouvons lui dire. Il y a plein de choses pour lesquelles nous pouvons dire merci à notre Dieu. Alors, il y a aussi une deuxième question que nous devons nous poser. Pour qui nous devons prier? Pour qui nous devons prier? Notre texte ne nous dit pas de prier les uns pour les autres. Ce n'est pas mentionné. Je ne dis pas que c'est mauvais de prier les uns pour les autres. Nous pouvons prier les uns pour les autres. Mais dans ce texte, le texte ne nous dit pas de prier les uns pour les autres. Il nous dit de prier pour tous les hommes, sans exception. Dans tous les hommes, y compris les femmes. Pour tous les hommes, de prier pour tous les hommes. Oui. Donc, ça voudrait dire que notre prière doit être suffisamment large pour englober tout le monde. Nous devons élargir notre champ d'action de nos prières, frères et sœurs. Parce que on nous dit de prier pour tous les hommes. Élargissons notre champ d'action dans nos prières. Ne nous limitons pas seulement ici, mais soyons beaucoup plus larges. Oui, parce que le verset 1 dit, « Priez pour tous les hommes, pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité. » Tous les hommes, et ils ont donné une petite précision, pour les rois. Donc, ceux qui nous gouvernent, l'idée est que tous les hommes ont besoin de nos prières. Tous les hommes ont besoin de nos prières. Nous devons exclure personne dans nos prières. Nous devons exclure personne dans nos prières. Nous prions facilement pour nos familles, facilement pour nos familles, pour nos enfants, pour nos voisins, pour nos frères et sœurs, pour nos amis. Mais cela ne devrait pas s'arrêter là. Nous devons aller encore beaucoup plus loin. Nous devons également prier pour ceux qui nous maltraitent et qui nous persécutent. Nous devons prier aussi pour ceux qui ne nous aiment pas. C'est ça tous les hommes. Prier pour tous les hommes. Même les voisins là qui ne t'aiment pas. Même ton collègue de travail qui ne t'aime pas. Nous devons prier pour lui. Tu dois prier pour lui. Parce qu'il est dit prier pour tous les hommes. Oui. Nous devons aussi prier pour ceux qui ont besoin de connaître Jésus-Christ, ceux qui sont perdus. Nous devons aussi prier pour eux. parce que Romains chapitre 10, verset 1 dit ceci, « Frères, le vœu, ça c'est Paul qui parle aux Romains, le vœu de mon cœur et ma prière à Dieu pour eux, c'est qu'ils soient sauvés, ceux qui ne connaissent pas la parole de Dieu, ceux qui ne sont pas encore au Seigneur. Ma prière pour eux, c'est qu'ils soient sauvés. » Et ça doit être aussi notre prière. Prier pour ceux qui sont perdus, qui ne sont pas encore au Seigneur, afin qu'ils soient sauvés. Nous devons aussi prier afin que le Seigneur envoie les ouvriers dans sa moisson. Tout cela, ça rentre, prier pour tous les hommes. Ces ouvriers qui sont à droite, à gauche. Ces ouvriers qui sont peut-être ici présents ce soir, mais qui sont encore peut-être réticents, peut-être ils ont un peu, ils ont peur, peut-être ils sont hésitants et nous devons prier pour eux. Comme nous le lisons dans Matthieu 7, 38, « Priez donc le maître de la moisson d'envoyer les ouvriers dans sa maison. » Nous devons prier pour eux, donc nous devons élargir notre champ d'action de prière. Oui, frères et sœurs, Dieu veut que nous nous soucions de tout le monde. Nous devons avoir ces soucis-là pour tout le monde, sans exclure personne dans nos prières. Aussi bien de sauver ceux qui sont sauvés et ceux qui ne sont pas encore sauvés. Et chacun d'entre eux entre dans la catégorie « prier pour tous les hommes ». Même certains qu'on n'a pas cités, mais tout cela rentre dans cette catégorie « prier pour tous les hommes ». Et en tant qu'enfant de Dieu, en tant que chrétien, nous sommes appelés à prier pour nos dirigeants et tous ceux qui détiennent l'autorité. Nous devons prier pour eux. Même des dictateurs, nous devons prier pour eux. Afin que nous menions, la Bible dit, afin que nous menions une vie paisible et tranquille en toute piété et honnêteté. Oui, une vie chrétienne en paix et partager notre foi tranquillement avec les autres dans le calme. C'est pour cela que nous devons prier pour ces autorités. Nos dirigeants, nos autorités ont besoin de la sagesse divine pour pouvoir bien gouverner en se soumettant à celui qui est le roi des rois. C'est pour cela que nous devons prier pour eux. Et lorsque nous prions de cette manière, nous nous conformons à la volonté de Dieu, qui veut que nous puissions prier pour tous les hommes. Vous savez, frères et sœurs, nous devons prier pour le président de la République. Nous sommes ici en France. Pourquoi ? Parce que nous ne pouvons jamais nous rendre aux Champs-Élysées pour lui donner des conseils. Il ne va pas nous recevoir. Qui sommes-nous ? Je suis pasteur, je suis chrétien à l'église de Saint-Denis. Je voudrais voir le président Macron pour lui donner quelques conseils. Ah, monsieur, allez, circule, il n'y a rien à voir. Il ne va pas te recevoir. Mais nous pouvons aller devant les trônes de grâce et prier pour le président. Ça, nous pouvons le faire. Nous ne pouvons pas rentrer là-bas au palais de l'Élysée, mais nous avons accès d'aller jusqu'au trône de grâce et prier pour nos dirigeants, prier pour notre président. C'est pour cela que Proverbe 21:1 dit ceci, « Le cœur du roi est un courant d'eau dans la main de l'Éternel. Il l'incline partout où il veut. » Alors, prions ce Dieu-là qui incline ce courant d'eau qui est entre la main de l'Éternel. Il peut incliner le cœur du roi partout où il veut. Alors, allons devant le trône de grâce et prions pour nos autorités, frères et sœurs. Il n'y a personne ayant une autorité si élevée qui n'ait pas besoin du salut de Jésus-Christ. Même si tu es ministre, tu es haut dignitaire, tu as besoin du salut de Jésus-Christ. Oui, Dieu souhaite que nous puissions vivre une vie calme et paisible en toute piété et honnêteté, et nous devons donc prier avec confiance pour cela. Prier avec ses autorités afin que nous puissions vivre d'une manière calme. Parce que ce n'est que de cette manière-là que nous pouvons vivre tranquillement notre foi en Jésus-Christ et partager notre foi avec les autres. Le but de la prière pour tous les hommes, c'est qu'ils soient sauvés. Tous les hommes, qu'ils soient sauvés. Et la Bible dit le résultat, car cela est bon et agréable aux yeux de Dieu notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Le salut est clairement associé au fait de parvenir à la connaissance de la vérité. Il n'y a pas de salut sans la connaissance de la vérité de notre Seigneur Jésus-Christ. Dieu ne désire pas la mort des méchants, mais que les méchants se détournent de leur mauvaise voie et qu'ils vivent, et qu'ils vivent. La prière change celui qui prie, mais la prière change aussi les autres pour lesquels nous prions. Et l'Église a pour but de changer de vie, de changer de vie. C'est pour cela que nous devons prier pour tout le monde. La vie des non-croyants est transformée par le salut quand ils acceptent Jésus-Christ comme étant leur Seigneur et Sauveur. Et la vie de nous, les chrétiens, est transformée par la sanctification quand nous prions pour nos frères et sœurs. Que l'Éternel puisse les fortifier, puisse les garder, qu'ils puissent marcher d'une manière digne des enfants de lumière. Leur vie est transformée par la sanctification. Et dans tous les cas, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui reçoit toute la gloire. Je vais conclure par ce passage de Éphésiens chapitre 6, verset 18, qui dit ceci: faites en tout temps, par l'Esprit, toutes sortes de prières et de supplications, veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Voilà la recommandation que la parole de Dieu nous dit. Faites en tout temps, par l'Esprit, toutes sortes de prières, comme nous l'avons vu, supplications, d'intercession, rendre grâce à Dieu, d'action de grâce, et nous devons veiller à tout cela. Frères et sœurs, ce soir nous allons prendre temps de prière, c'est vrai. Alors, prions à la lumière de la volonté de Dieu, afin que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Que le Seigneur bénisse sa parole.